2009. La première dispute entre les époux Saubers pour des questions d'argent, du moins la première que les enfants surprirent, éclata un soir d'avril. C'était pas une grosse dispute, mais même les tempêtes les plus violentes commencent par des brises légères. Peter et Tina Saubers étaient dans le salon. Pete faisait ses devoirs et Tina regardait un DVD de Bob l'éponge. Elle l'avait déjà vu avant des tas de fois, mais elle semblait ne jamais s'en lasser. Et c'était tant mieux, parce que depuis quelque temps, les Saubers n'avaient plus accès à la chaîne des dessins animés. Tom Saubers avait résilié leur abonnement au câble, il y avait de cela 2 mois. Tom et Linda Saubers se trouvaient dans la cuisine où Tom était en train de fermer son vieux sac après l'avoir rempli de barres énergétiques, d'un tupperware de crudité, de 2 bouteilles d'eau et d'une canette de coca. « T'es complètement cinglé !» dit Linda. « J'ai toujours su que t'étais une personnalité de type A, mais là, ça dépasse tout ce que j'avais pu imaginer. Si tu veux mettre le réveil à 5 heures, d'accord. Tu peux passer prendre Todd, être au City Center à 6 heures, et vous serez encore dans les premiers. »«
J'aimerais bien, » répondit Tom. « Mais Todd dit qu'il y a déjà eu une de ces foires à l'emploi à Brook Park le mois dernier et que les gens ont commencé à faire la queue la veille. La veille, Lynn !»«
Todd dit pas mal de trucs. Et toi, tu l'écoutes. Tu te souviens quand il a dit que Pete et Tina allaient tout simplement adorer cette espèce de show de Monster Trucks ?»«
Il s'agit pas d'un show de Monster Trucks, là. Ni d'un concert au parc, ni d'un feu d'artifice. C'est de nos vies, là, qu'il s'agit. »
Pete leva les yeux de ses devoirs et croisa brièvement le regard de sa petite sœur. Le haussement d'épaule de Tina était éloquent. Les parents, quoi. Il retourna à ses maths. Plus que 4 problèmes, et il pourrait aller chez Howie, voir s'il avait de nouvelles bandes dessinées. Naturellement, Pete n'en avait aucune à échanger. Son argent de poche avait subi le même sort que l'abonnement au câble. Dans la cuisine, Tom avait commencé à faire les 100 pas. Linda le rattrapa, et lui prit doucement le bras. « Je sais qu'il s'agit de nos vies, » dit-elle. Elle avait baissé le ton, en partie pour pas que les enfants entendent et s'inquiètent. Elle savait que Pete s'inquiétait déjà, mais surtout pour apaiser la tension. Elle comprenait ce que ressentait Tom, et elle était de tout cœur avec lui. C'était dur d'avoir peur, et c'était pire de se sentir humilié parce qu'on ne pouvait plus subvenir aux besoins de sa famille. Ce que Tom considérait comme sa responsabilité première. C'était pas vraiment humiliation, le terme exact. Ce qu'il éprouvait, c'était de la honte. Durant les 10 ans qu'il avait passé chez Lakefront Immobilier, il avait systématiquement été un de leurs meilleurs agents, et la photo de son visage souriant avait souvent accueilli les clients à l'entrée. La paye que Linda ramenait en tant qu'enseignante faisait que rajouter du beurre dans les épinards. Et puis, à l'automne 2008, l'économie s'était effondrée et les Saubers étaient devenus une famille à un seul salaire. Et c'était pas comme si Tom avait été licencié en attendant d'être réembauché lorsque les choses s'amélioreraient. À présent, Lakefront Immobilier n'était plus qu'un local vide avec des graffitis sur les murs et une pancarte à vendre ou à louer en façade. Les frères Reardon, qui avaient reçu l'entreprise de leur père en héritage et leur père du sien, avait fait de gros placements en actions et pratiquement tout perdu quand le marché avait coulé. Que Todd Payne, le meilleur ami de Tom, soit embarqué dans le même bateau n'était qu'une piètre consolation pour Linda. Pour elle, Todd était un bonnet.
« Tu as regardé la météo ?»«
Moi, oui. Il va faire froid. Le brouillard va monter du lac très tôt, avec peut-être même de la bruine verglaçante.
De la bruine verglaçante, Tom. »«
Tant mieux. J'espère bien. » Ça réduira le nombre de candidats et augmentera mes chances. »
Il la prit par les avant-bras, mais doucement. Il ne la secoua pas, ne cria pas. Ça viendrait plus tard.
« Il faut que je trouve quelque chose, Lynn. Il le faut. Et la foire à l'emploi est ma meilleure chance ce printemps.
J'ai frappé à toutes les portes. Je sais.
Et il n'y a rien. Que dalle. »
Si. Quelques boulots sur les quais et un petit chantier au centre commercial à côté de l'aéroport. Mais tu me vois faire ce genre de boulot? J'ai 15 kilos et 20 ans de trop.
Je pourrais trouver un petit boulot en ville cet été, dans la vente peut-être, si les choses s'améliorent un peu. Mais ce genre de boulot, ça paye pas et c'est généralement temporaire. Alors Todd et moi, on va y aller à minuit et on va faire la queue jusqu'à ce que les portes s'ouvrent demain matin. Et je te promets de rentrer avec un vrai travail qui rapporte de l'argent.
Et un virus que tu pourras nous refiler à tous. Comme ça, on n'aura qu'à économiser sur les courses pour se payer le docteur.
C'est à ce moment qu'il s'énerva vraiment contre elle.
J'aimerais un peu de soutien, là.
Tom, pour l'amour du ciel, j'essaie...
Peut-être même un bravo. Je te félicite, Tom, de faire preuve d'autant d'initiative. On est content, Tom, de voir que tu te plies en quatre pour la famille. Ce genre de truc, si c'est pas trop demandé.
Tout ce que je dis...
La porte de la cuisine s'ouvrit et se referma avant qu'elle ait pu terminer. Il était sorti fumer une cigarette sur les marches de derrière. Cette fois-ci, lorsque Pete leva les yeux, ce fut de la détresse et de l'inquiétude qu'il lut sur le visage de Tina. Elle avait que 8 ans après tout. Pete sourit et lui fit un clin d'œil. Tina lui rendit un sourire hésitant et retourna à ses aventures à Bikini Bottom, le royaume des profondeurs océaniques, où les papas perdaient pas leur travail, élevaient pas la voix, et où on supprimait pas aux enfants leur argent de poche. Sauf s'ils faisaient des bêtises, bien entendu. Avant de partir ce soir-là, Tom alla border sa fille et l'embrasser pour lui souhaiter bonne nuit. Il fit aussi un bisou à Madame Bisley, la poupée préférée de Tina, pour se porter chance, lui dit-il.
« Papa, est-ce que ça va aller ?»«
Je veux, ma chérie, que ça va aller, » lui dit-il.
Elle se souvenait de ça, la confiance dans sa voix.
« Tout ira très bien, tu verras. Dors maintenant. »
Il sortit de la chambre, en marchant normalement. Elle se souvenait de ça aussi, parce que c'était la dernière fois qu'elle l'avait vu marcher comme ça.
En haut de la côte escarpée menant de Marlborough Street au parking du City Center, Tom s'exclama.
« Waouh, stop, stop, arrête-toi !»« Hé mec, il y a des voitures derrière moi !» dit Todd. « Juste une seconde !»
Tom brandit son téléphone et prit une photo des gens qui faisaient la queue. Il devait déjà être une centaine. Au moins une centaine. Au-dessus des portes de l'auditorium, une banderole annonçait 1000 emplois assurés. Et... toujours aux côtés de mes concitoyens. Votre maire, Ralph Kinsler.
Derrière la vieille Subaru rouillée de Todd Payne, quelqu'un klaxonna.
Tommy, je m'en voudrais de jouer les rabat-joie pendant que t'immortalises ce magnifique moment, mais... Vas-y, vas-y, c'est bon.
Et alors que Todd entrait dans le parking où les places les plus proches du bâtiment étaient déjà prises, il ajouta.
J'ai hâte de montrer ça à Linda. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'en arrivant à 6 heures, on serait dans les premiers. « Je te l'avais dit, mon pote. Le Toadster ne ment jamais. »
Le Toadster se gara. Le moteur de la Subaru expira dans un prout et un râle.
« Au lever du jour, on sera dans les 2000 ici. Avec la télé aussi. Toutes les chaînes. City at Six, Morning Report, Metro Scan. On se fera peut-être interviewer ?»«
Je me contenterai d'un boulot. »
Linda avait raison sur un point. Il y avait de l'humidité dans l'air. On sentait l'odeur du lac. Ce léger parfum d'égout. Et la température était presque assez basse pour qu'il voie la condensation de son haleine. Des poteaux avec du ruban jaune marqué « Ne pas franchir » avaient été installés, faisant décrire plusieurs virages à la file de demandeurs d'emploi, tels les soufflets d'un accordéon humain. Tom et Todd prirent place entre les derniers poteaux. D'autres se rangèrent aussitôt derrière eux, surtout des hommes. Certains en épaisses vestes polaires d'ouvriers, d'autres en par-dessus avec des coupes de cheveux à la Mr. Businessman qui commençaient à perdre leur bord bien rasé. Tom estimait que la file atteindrait le fond du parking d'ici à l'aube et il resterait encore au moins 4 heures avant l'ouverture des portes. Son regard fut attiré par une femme portant un bébé dans le dos. Elle se trouvait 2 zigzags devant eux. Tom se demanda à quel point il fallait être désespéré pour sortir avec un nourrisson par une nuit aussi humide et froide. Le petit était installé dans un porte-bébé. La femme était en train de parler à un grand costaud portant un duvet sur l'épaule, et le regard du bébé passait de l'un à l'autre, comme celui du plus petit fan de tennis du monde. Presque comique.
« Une petite goutte pour te réchauffer, Tommy ?»
Todd avait sorti de son sac une bouteille de 50 centilitres de Bells et l'attendait à Tom. Celui-ci, se rappelant la flèche du part que lui avait décoché Linda,
« Et ne t'avise pas de sentir l'alcool à ton retour, monsieur. »
Faillit décliner. Puis il prit la bouteille. Il faisait froid, et une petite rasade ne pouvait pas faire de mal. Il sentit le whisky descendre, réchauffant sa gorge et son ventre.
« Rince-toi la bouche avant de te présenter au stand, »
s'intima-t-il. On n'embauche pas les types qui sentent le whisky. Quand Todd lui proposa une autre petite goutte, autour de 2 heures du matin, Tom refusa. Mais lorsqu'il réitéra à 3 heures, Tom prit la bouteille. Vu ce qu'il restait, le Toddster n'avait pas dû lésiner sur les quantités pour se blinder contre le froid. Oh, et puis merde, pensa Tom. Et il s'enfila légèrement plus qu'une petite goutte, plutôt une grosse gorgée.
« Yee-haw !» fit Todd, la voix à peine un peu pâteuse. « Lâche-toi !»
Les demandeurs d'emploi continuaient d'arriver, leur voiture pointant le nez au bout de Marlborough Street à travers le brouillard qui s'épaississait. La queue s'étirait loin après les poteaux à présent, et elle ne zigzaguait plus. Tom croyait avoir pris la mesure des difficultés économiques qui frappaient actuellement le pays. N'avait-il pas lui-même perdu un travail, un très bon travail? Mais alors que les voitures ne cessaient d'arriver et la file de s'allonger, il n'en voyait plus le bout, il commença à voir les choses sous un angle nouveau et terrifiant. Peut-être que « difficulté » n'était pas le mot juste. Peut-être que le mot juste était « désastre ». À sa droite, dans le labyrinthe de poteaux et de rubans jaunes menant aux portes de l'auditorium encore plongé dans l'obscurité, le bébé se mit à pleurer. Tom se retourna et vit l'homme au sac de couchage tenir les côtés du porte-bébé pour que la femme, « mon Dieu !» se dit Tom, « elle a l'air d'une adolescente », puisse en extraire le gosse.
« C'est quoi ce bordel ?»
demanda Todd, la voix plus pâteuse que jamais.
« Un môme !» dit Tom. « Une femme avec un môme ?» « Une gamine avec un môme. »
Todd plissa les yeux.
« D'où Jésus sur un poney ?» dit-il. « On aura tout vu. Je trouve ça tu sais, pas responsable. »«
T'es bourré ?» Linda n'aimait pas Todd. Elle ne voyait pas son bon côté. Et là, tout de suite, Tom non plus n'était pas certain de le voir.
« Un petit peu. » J'aurais cuvé d'ici à ce que les portes s'ouvrent. Et j'ai des pastilles à la menthe aussi.
Tom pensa demander au Toddster s'il avait aussi apporté de la visine. Il avait les yeux super rouges. Puis décida qu'il n'avait pas envie d'avoir cette discussion maintenant. Il reporta son attention sur l'endroit où se tenait la femme avec le bébé qui pleurait. Il crut d'abord qu'elle était partie. Et puis, il baissa les yeux et la vit se glisser dans le sac de couchage du grand costaud, avec son bébé contre la poitrine. Le grand costaud lui tenait le sac de couchage ouvert. Le petit, ou la petite, braillait toujours.
« Mais faites-le taire, bordel !»
cria un homme.
« C'est les services sociaux qu'il faudrait appeler !»
ajouta une femme. Tom pensa à Tina au même âge. L'imagina dehors par ce matin froid et brumeux et réprima son envie de leur dire de la fermer. Ou encore mieux, de donner plutôt un coup de main. Après tout, ils étaient ensemble dans cette galère, pas vrai? Tous les merdeux et les malchanceux. Les pleurs se calmèrent, cessèrent.
« Elle doit le faire téter, »
dit Todd, et il joignit le geste à la parole en se pressant le sein.
« Ouais. Tommy ?»«
Quoi ?»«
Tu sais qu'Hélène a perdu son boulot, hein ?»«
Mon Dieu, non, je savais pas. » Feignant de ne pas voir la peur sur le visage de Todd, ni le scintillement humide de ses yeux, peut-être dû à l'alcool ou au froid, ou peut-être pas.
Ils ont dit qu'ils la rappelleraient quand les choses s'arrangeraient, mais ils m'ont dit la même chose et ça fait 6 mois que j'ai plus de boulot. J'ai encaissé l'argent de mon assurance, mais tout est parti. Et tu sais ce qui nous reste sur notre compte? $500. Tu sais combien de temps on tient avec $500 quand un paquet de pain de mie chez Kroger coûte $1?
Pas longtemps.
Tu l'as dit, putain, pas longtemps. Faut que je dégote un truc ici. Il le faut.
Tu vas trouver quelque chose. On va trouver quelque chose, tous les deux. Todd donna un coup de menton en direction du grand costaud qui semblait à présent monter la garde devant le sac de couchage pour que personne ne piétine la femme et le bébé à l'intérieur.
Tu crois qu'ils sont mariés?
Tom l'avait pas envisagé. Maintenant, oui.
Probablement.
C'est qu'ils doivent tous les deux être au chaume dû, alors. Sinon, un des deux serait resté à la maison avec le petit.
Peut-être qu'ils se disent que venir avec le bébé jouera en leur faveur, dit Tom.
Le visage de Todd s'illumina.
Faire jouer la pitié, pas une mauvaise idée.
Il tendit la bouteille de whisky.
Encore une goutte ?
Tom en prit une petite en pensant. Si je la bois pas, Todd le fera. Tom fut tiré d'un petit somme induit par le whisky au cri exubérant de
« De la vie sur Mars !»
La plaisanterie fut accueillie par des rires et des applaudissements. Il regarda autour de lui et vit le jour poindre, encore timide et enveloppé de brouillard, mais le jour quand même. Derrière la rangée de portes de l'auditorium, un type en uniforme gris, un type qui avait un boulot, le Vénard, poussait un seau à serpillière à travers le hall d'entrée.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
demanda Todd.
« Rien, » répondit Tom. « Juste un homme de ménage. »
Todd scruta en direction de Marlborough Street.
« Seigneur, et ça continue d'arriver ?»«
Ouais, »
dit Tom, pensant. « Et si j'avais écouté Linda, on serait tout au bout d'une file qui s'étire pas encore jusqu'à Cleveland, mais presque. » C'était une pensée réconfortante. C'est toujours réconfortant d'avoir raison. Mais il regrettait de ne pas avoir refusé le whisky de Todd. Il avait un goût de litière pour chat dans la bouche. Pas qu'il en ait déjà mangé ni rien, mais... Quelques zigzags devant eux, pas loin du sac de couchage, quelqu'un demanda
« C'est pas une Mercedes ? On dirait une Mercedes ?»
Tom aperçut une longue forme arrêtée à l'entrée de l'accès par Marlborough Street, feu anti-brouillard jaune aveuglant. Elle n'avançait pas. Elle restait juste plantée là.
« Qu'est-ce qu'il fout ?»
demanda Todd. Le conducteur de la voiture arrêtée juste derrière dut se poser la même question, car il appuya sur son klaxon. Un long coup énervé qui fit se retourner les gens en se secouant et en grognant. Un moment, la voiture au feu anti-brouillard jaune resta où elle était. Puis elle fonça. Pas sur la gauche en direction du parking, désormais plein à craquer, mais droit sur les gens parqués dans le labyrinthe de poteaux métalliques et de rubans de signalisation.
« Hé !»
cria quelqu'un. La foule tanga vers l'arrière dans un mouvement de marée. Tom fut poussé contre Todd, qui tomba sur les fesses. Tom lutta pour garder l'équilibre. Y parvint presque. Puis le type juste devant, criant, non, hurlant, lui flanqua son postérieur dans l'entrejambe et son coude dans la poitrine. Tom s'affala sur son copain, entendit la bouteille de Bell's se briser quelque part entre eux et sentit l'odeur âcre du fond de whisky s'écoulant sur le bitume. « Génial. Maintenant, je vais empester comme un bar un samedi soir. » Tant bien que mal, il se releva, à temps pour voir la voiture. C'était bien une Mercedes. Oui, une grosse berline aussi grise que ce matin brumeux. Chargeait la foule, en décrivant un arc de cercle ivre, fauchant et projetant des corps sur son passage. Du sang dégoutté de la calandre. Une femme atterrit sur le capot et roula, mains en avant, pieds déchaussés. Elle heurta le pare-brise. Tenta de se raccrocher à un essuie-glace, le rata et chuta de l'autre côté de la voiture. Les rubans jaunes, ne pas franchir, cassés les uns après les autres. Un poteau claqué, suspendu au flanc de la grosse berline, sans la ralentir le moins du monde. Tom vit les pneus avant rouler sur le sac de couchage et sur le grand costaud qui s'était accroupi au-dessus, main levée pour le protéger. Maintenant, elle venait droit sur lui.
« Todd !» hurla-t-il. « Todd, relève-toi !»
Il tendit les mains vers Todd, réussit à saisir l'une des siennes et tira. Quelqu'un le percuta et il tomba de nouveau à genoux. Il entendait le moteur de la voiture folle tourner à plein régime. Maintenant tout proche, il tenta de ramper et un pied le heurta à la tempe. Il vit des étoiles.
« Tom !»
Todd était derrière lui à présent. Comment était-ce possible ?«
Tom, c'est quoi, bordel ?»
Un corps atterrit sur lui, puis autre chose. Un poids énorme qui l'écrasa, menaçant de le transformer en confiture. Ses hanches cédèrent, un bruit d'os de dinde sec. Puis le poids se retira et la douleur, avec son poids bien à elle, le remplaça. Tom tenta de redresser la tête et parvint à la soulever du bitume, juste le temps de voir des feux arrière disparaître dans le brouillard. Il vit scintiller des éclats de verre de la bouteille de whisky brisée. Il vit Todd étendu sur le dos, du sang couler de sa tête et former une flaque sur le bitume. Des traces de pneus écarlates s'enfonçaient dans le petit jour brumeux. Il pensa. Linda avait raison. J'aurais dû rester à la maison. Il pensa. Je vais mourir. Et ça vaut peut-être mieux. Parce que, à la différence de Todd Payne, j'ai pas encore encaissé l'argent de mon assurance.
Il pensa, même si j'aurais sûrement fini par le faire avec le temps. Puis, noir total.
Quand Tom Sauberse se réveilla à l'hôpital, 48 heures plus tard, Linda était assise à côté de lui. Elle lui tenait la main. Il lui demanda s'il allait vivre. Elle sourit, lui pressa la main et dit
« Je veux, mon beau. »
« Je suis paralysé. Dis-moi la vérité. »
« Non, mon chéri. Mais tu as pas mal de fractures. »
« Et Todd ?»
Elle détourna le regard en se mordillant les lèvres.
« Il est dans le coma, mais les médecins pensent qu'il va en sortir. D'après ses ondes cérébrales ou quelque chose comme ça. »
« Il y avait une voiture. J'ai pas pu m'écarter de son passage. »
« Je sais. T'es pas le seul. Une espèce de forcené. » Il a réussi à prendre la fuite, du moins pour le moment.
Tom se fichait pas mal du type au volant de la Mercedes. Pas paralysé, c'était bien. Mais, c'est grave? Me baratine pas, sois franche.
Elle le regarda dans les yeux, mais ne put soutenir son regard. Détournant à nouveau le sien vers les cartes de prompt rétablissement exposées sur sa table, elle dit
« Tu... Bon... Ça va prendre du temps avant que tu puisses remarcher.
Combien de temps ?
Elle lui souleva la main, qu'il avait salement écorchée, la porta à ses lèvres et y déposa un baiser.
Ils savent pas.
Tom Sauberse ferma les yeux et se mit à pleurer. Linda resta un moment à l'écouter, puis, quand elle n'y tint plus, elle se pencha et appuya sur le bouton de la pompe à morphine. Elle continua d'appuyer, jusqu'à ce que la machine cesse d'administrer. À ce moment-là, Tom dormait déjà.